France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction.
Et bonjour à toutes et à tous. Une quarantaine de morts et plus de 115 blessés, en très grande majorité des jeunes. C'est le dernier bilan toujours provisoire de l'incendie qui a ravagé la veille un bar de la station de ski de Crans-Montana. L'une des pires tragédies que la Suisse ait connue, selon les propres mots du président helvétique. Un drame d'autant plus cruel que l'heure, on l'entendra, n'est même pas tout à fait au deuil. De nombreuses familles désemparées sont en effet toujours sans nouvelles de leurs enfants, notamment parce qu'il faudra sans doute encore du temps pour identifier toutes les victimes. À suivre également la confrontation entre les États-Unis et le Venezuela, ou plus exactement le duel que se livrent leurs présidents respectifs. L'actualité en France, cette fois-ci, reste toujours marquée par le passage à la nouvelle année, avec de nouvelles réglementations, en particulier fiscales, mais aussi les prochaines échéances électorales. On détaillera la fin des avantages à vie des anciens membres du gouvernement. Enfin, avec notre invité, on poursuivra notre série sur les JO d'hiver en plein réchauffement climatique. Au lendemain de l'incendie en Suisse qui a fait une quarantaine de morts et quelques 115 blessés, la plupart grièvement, de très nombreuses questions demeurent à l'heure où l'enquête ne fait que démarrer, à commencer par la première d'entre elles. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Plusieurs témoignages semblent accréditer une hypothèse, celle de bougies brandies qui auraient pu déclencher un incendie au contact du faux plafond avant de provoquer une déflagration. Ensuite, la sécurité a-t-elle été respectée avant d'organiser cette soirée du nouvel an? L'établissement qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes était-il aux normes? Le sous-sol du bar où le feu s'est déclenché n'était relié au rez-de-chaussée que par un simple escalier étroit. Par ailleurs, on ne connaît toujours pas le nombre exact de personnes présentes sur place la nuit du drame. Enfin, à la sidération se mêle à présent l'insoutenable incertitude des proches de disparus. Marc Bertrand s'est rendu hier soir devant le centre des congrès de la station réquisitionnée pour accueillir justement les familles des victimes, des parents qui, pour beaucoup, ne savent toujours pas où est leur enfant.
Deux policiers suisses barrent l'accès au centre. On voit seulement les lumières dans la nuit et des gens qui se tiennent dans les bras. Une femme sort chercher des affaires dans sa voiture. Elle est venue soutenir son cousin et sa femme qui ne savent toujours pas où est leur fils.
Non, on ne sait toujours pas. Est-ce qu'il est gravement blessé et dans un hôpital? Il pourrait même être à l'étranger parce qu'il y avait tellement de blessés graves. On ne sait pas où sont les enfants, sont morts ou blessés, on ne sait pas.
Elle montre du doigt l'ambulance jaune stationnée devant l'entrée.
La maman, elle est tombée dans les pommes, là, elle est dans l'ambulance. Imaginez-vous, hein, votre seul enfant à 18 ans. Il n'y a pas de mots pour ça.
À l'intérieur, il y a des psychologues, des assistants sociaux, des religieux. La police distribue des repas aux parents pour supporter l'attente interminable.
On est extrêmement nombreux. Il y a des parents de blessés graves non identifiés et des parents d'enfants morts non identifiés, carbonisés, vous imaginez. Les identifications sont en cours, là, ils amènent des trucs, des morceaux de, des dents. Des... C'est une catastrophe majeure pour ce pays. C'est énorme.
Elle s'arrête là. Elle en a déjà trop dit. La petite femme retourne soutenir ses proches. On leur a installé des lits pour passer la nuit jusqu'à ce qu'on leur donne des réponses.
Alors de cette horreur absolue, de celle qui n'a pour l'heure aucune explication, on retient avant tout un bilan dramatique. Au moins 40 personnes fauchées en pleine jeunesse, arrachées à leur envie de célébrer la nouvelle année, et encore des dizaines de blessés marqués à jamais dans leur propre chair. Et face à cette cruauté indicible, c'est donc tout un pays qui porte aujourd'hui le deuil, mais pas seulement. Le monde a été choqué, à commencer par les voisins du petit pays alpin. On soutient la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs activé le mécanisme dit de protection civile de l'UE. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles. Alors ce système d'assistance, en réalité, n'importe quel pays au monde peut le demander, Fabien, dès lors que ses capacités de réaction sont dépassées par une situation d'urgence, c'est bien cela?
Absolument, et c'est bien le cas de la Suisse où seulement une dizaine de lits d'hospitalisation sont disponibles pour prendre en charge les grands brûlés, trop peu pour plus d'une centaine de victimes. Il faut donc organiser dans l'urgence, du fait de la gravité des blessures, leur prise en charge dans des pays voisins, États membres de l'Union européenne, comme la France et l'Italie. Et c'est là qu'intervient ce mécanisme de protection civile activé par la Commission européenne. Elle apporte un soutien logistique à travers son centre de coordination des interventions d'urgence basé à Bruxelles, un centre qui dépêche sur place en Suisse des équipes d'experts et de secouristes qui aident à l'orientation des blessés vers tel ou tel pays. Ce centre peut également prendre en charge certains frais d'évacuation par hélicoptère si besoin et faire le lien entre les différents partenaires européens et les autorités helvétiques, ce qui évite à la Suisse une multiplication des interlocuteurs et des canaux de communication. Le mécanisme de protection civile est habituellement activé en cas de catastrophe naturelle. Il a été plus de 800 fois en 25 ans d'existence, notamment pour venir en aide à des victimes d'incendies, d'inondations, de cyclones ou à des populations civiles dans des pays en proie à des conflits militaires en Europe et partout dans le monde.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Par le manque d'eau comme la pollution de l'air, voilà longtemps déjà que la vie à Téhéran est devenue un véritable enfer en même temps qu'un combat. Pourquoi ? Parce que la capitale iranienne n'est pas seulement devenue insalubre et surpeuplée, elle est également trop chère. Et le coût de la vie, justement, comprenait l'hyperinflation, la dépréciation de la monnaie, le marasme économique, c'est très précisément ce qui donne lieu depuis bientôt une semaine à une forte mobilisation à travers des rassemblements pacifiques organisés dans tout le pays. Sauf que depuis hier, des affrontements localisés entre manifestants et forces de l'ordre ont fait 6 morts, parmi lesquels 5 civils. Par ailleurs, 30 personnes ont été arrêtées, toutes accusées de troubles à l'ordre public, ou quand le pouvoir des mollahs ne semble désormais plus nécessairement enclin à jouer l'apaisement. Voilà plusieurs mois maintenant que le pouvoir vénézuélien est soumis à une très forte pression de la part des États-Unis. L'administration Trump a déployé une véritable armada en mer des Caraïbes, mais pas seulement. Washington a également durci les sanctions contre Caracas. Et forcément, dans ces conditions, c'est peu de dire que l'allocution hier soir à la télévision de Nicolas Maduro était attendue. Lui qui accuse régulièrement son voisin Yankee venu du Nord de vouloir renverser son régime pour s'emparer des réserves de pétrole de son pays. Or, il s'est montré étrangement plutôt réservé. Alors, gage de bonne volonté ou simple geste pour les faits, élément de réponse avec Virginie Pironon.
Nicolas Maduro répondait à une question d'Ignacio Ramonet, journaliste espagnol, ancien directeur en France du Monde diplomatique, à qui il accorde tous les ans une interview diffusée à la télévision publique. Lorsque le spécialiste de l'Amérique latine lui demande ce qu'il en est de l'attaque terrestre annoncée lundi par Donald Trump sur le sol vénézuélien, la première qui visait des bateaux à quai accusés de participer au narcotrafic, Nicolas Maduro ne confirme rien, mais ne dément pas non plus. Il reste évasif, se contentant de répondre que cela peut être un sujet dont il pourrait parler avec le président américain dans les prochains jours. La dernière conversation entre les deux hommes remonte au mois de novembre. Le gouvernement des États-Unis le sait, affirme Nicolas Maduro. S'ils veulent discuter sérieusement d'un accord de lutte contre le narcotrafic, nous sommes prêts. S'ils veulent du pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt pour des investissements américains quand ils le veulent, où ils le veulent et comme ils le veulent. Des propos qui peuvent être interprétés comme une tentative de Nicolas Maduro d'adoucir le ton après des semaines de bras de fer avec Washington. Fin décembre, Donald Trump affirmait qu'il serait sage pour le président vénézuélien de quitter le pouvoir. S'il joue les durs, ce sera la dernière fois, menaçait le président américain. Après sa réélection très contestée de 2024, Nicolas Maduro semble donc avoir reçu le message. D'ailleurs, après la libération d'une centaine de prisonniers à Noël, les autorités vénézuéliennes ont annoncé hier remettre en liberté 88 nouveaux prisonniers.
Même si l'année qui s'en vient en France sera marquée par plusieurs échéances électorales, les municipales, puis les sénatoriales, en réalité, elle devrait rester essentiellement tournée vers l'an prochain, plus exactement la présidentielle de 2027. Et dans cette perspective, un parti fait déjà figure de favori, du moins en croire les enquêtes d'opinion, le Rassemblement National, sauf que d'ici là, la formation d'extrême droite et ses dirigeants devront relever plusieurs défis de taille qui pourraient en partie hypothéquer d'éventuels succès à venir. Les précisions de Nicolas Ballu.
Le pouvoir, les dirigeants du Rassemblement National sont aujourd'hui persuadés que cette fois, il sera pour eux, dans un avenir proche, la dissolution de l'Assemblée nationale, exigée sur tous les tons. 2025 reste à l'état d'hypothèse, mais le RN voit tout d'abord les municipales s'avancer avec appétit. Le parti n'a jamais eu autant de candidats investis pour mars prochain, plus de 600, et peut espérer avoir de nombreux élus dans les conseils municipaux, même dans certaines grandes villes. Ces élections ne leur sont pourtant pas généralement favorables, mais le parti d'extrême droite pourrait enfin constater un enracinement local à transformer lors des sénatoriales en septembre. Le RN espère former un groupe alors qu'il n'a que 3 sénateurs aujourd'hui. Quant à la grande élection pour le RN, la présidentielle, les sondages confortent Marine Le Pen et son remplaçant, Jordan Bardella, largement en tête et potentiellement vainqueur. Cette lecture est pourtant partielle. L'année du RN et le parti lui-même seront peut-être chamboulés par le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Il va déterminer l'avenir politique de la patronne des députés RN. Marine Le Pen, condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Ce procès qu'elle qualifie de politique doit durer du 13 janvier au 12 février et si la triple candidate à la présidentielle ne se présente pas, le RN a imposé à ses militants et au grand public la figure de Jordan Bardella, le président du RN et jeune politique en manque d'expérience. Mais l'un n'est pas l'autre. Le ni droite ni gauche de Marine Le Pen n'est pas l'union des droites et la tentative de séduction des grands patrons de son cadet. Quant au vote des budgets, il montre encore les ambiguïtés fiscales et les incohérences du RN. 2026 sera peut-être une année de clarification, une année durant laquelle l'avenir du parti ne passera peut-être pas par la famille Le Pen.
La fin des privilèges à vie pour les anciens premiers ministres et ex-ministres de l'Intérieur, c'était une promesse de Sébastien Lecornu dès son arrivée à Matignon au mois de septembre dernier. Et c'est désormais une réalité depuis hier, une mesure assez largement symbolique, mais qui a vocation malgré tout à faire quelques économies. Explication signée David Di Giacomo.
Oui, concrètement, 24 chauffeurs et 24 officiers de sécurité sont retirés à d'anciens premiers ministres et d'anciens ministres de l'Intérieur. Les ex-locataires de Matignon, comme Jean-Marc Ayrault, François Fillon ou encore Jean-Pierre Raffarin, ont reçu une lettre personnalisée de Sébastien Lecornu pour les informer de la fin de cet avantage à vie. Désormais, après avoir quitté leur fonction de premier ministre, ils auront droit à une voiture avec chauffeur pendant 10 ans et plus de façon illimitée. Côté protection policière maintenant, la règle, ce sera 3 ans pour les ex-premiers ministres et 2 ans pour les ex-locataires de la place Beauvau. Ensuite, une protection sera maintenue uniquement s'ils font l'objet de menaces. D'après nos informations, c'est le cas actuellement de Manuel Valls, Bernard Cazeneuve ou encore Christophe Castaner. En raison de sa candidature à la présidentielle, l'ex-premier ministre Édouard Philippe conserve lui aussi une protection.
Depuis hier, nous vous présentons quelques-unes des évolutions réglementaires apparues au 1er janvier. Il se trouve qu'un secteur en particulier devrait connaître cette année une transformation importante, celui des crypto-monnaies. En l'occurrence, la France vient d'adopter une directive européenne qui va notamment obliger les plateformes d'investissement en crypto à transmettre les informations de leurs clients au fisc. L'objectif est, on ne peut plus clair, mieux détecter les irrégularités dans la déclaration des actifs numériques et, ce faisant, sanctionner les ménages qui tenteraient de ne pas déclarer leurs biens. Alors cette règle est encore assez limitée, mais elle marque néanmoins un tournant, Valentin Gris, vers une régularisation du secteur des cryptos.
La directive européenne est baptisée DAC 8 et fait donc suite à 7 premiers textes portant sur la transparence et la coopération fiscale en Europe. Comme un symbole, les cryptos sont donc intégrés à l'édifice européen et français en la matière. Dans le détail, les prestataires de services basés en Europe vont devoir identifier leurs clients, personnes physiques ou entreprises, conserver les informations sur leurs opérations en crypto, puis transmettre ces informations aux services fiscaux. But affiché, lutter contre la fraude, car en théorie, chacun est déjà tenu de déclarer ses comptes crypto à l'étranger depuis 2020. En cas d'irrégularité, des amendes et des majorations d'impôts allant jusqu'à 80% pourront être décidées. Mais ce nouveau texte a une très grosse lacune, ne sont concernés que les prestataires européens, et donc ni les plateformes asiatiques, ni les plateformes françaises, paradoxalement. Il ne couvre pas non plus ce qu'on appelle les wallets, des coffres-forts numériques permettant de détenir des cryptos chez soi sans passer par une plateforme. En décembre, le Conseil des prélèvements obligatoires, rattaché à la Cour des comptes, relevait ces deux faiblesses et réclamait une transmission automatique pour les plateformes françaises. Pour ce qui est des wallets, un amendement a déjà été adopté dans le cadre du projet de loi de finances 2026 pour obliger leur déclaration au fisc. Les lobbies du secteur dénoncent une initiative inapplicable et une surveillance généralisée.
Depuis le début de la semaine, nous nous demandons si les JO d'hiver relèvent aujourd'hui d'un modèle désadapté pour diverses raisons d'ailleurs. Et parmi elles se pose notamment la question, bien entendu, de la neige de plus en plus rare dans les stations de ski, du moins à l'état naturel. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Marie Dumont, chercheuse en sciences de la neige et par ailleurs directrice du laboratoire d'études de la neige pour Météo France et le CNRS. Bonjour madame.
Bonjour.
Cécile Le Carvaz-Douet, donc à mes côtés pour vous interroger. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
On en est où, finalement, en termes d'enneigement aujourd'hui ?
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que en lien avec le réchauffement climatique et l'augmentation des températures, on a perdu une grosse part de l'enneigement dans les Alpes. On a perdu à peu près un mois d'enneigement depuis les années 70. On sait que ce retrait de la couverture du couvert nival, il va continuer si les températures globales, elles continuent d'augmenter. Et on sait que pour chaque degré de réchauffement global, on perdra un mois d'enneigement en plus dans les Alpes. En gros, ça veut dire que sur des altitudes qu'on appelle de la basse et de la moyenne altitude, donc tout ce qui est situé en dessous de 2000 mètres, on va avoir un enneigement qui va devenir de plus en plus rare et de plus en plus fin. Et ça veut dire qu'au-dessus de 2000 mètres, on va avoir un enneigement qui est existant, mais réduit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il était surtout dans les années 70.
Dans ce cadre-là, l'organisation des JO en 2030 dans les Alpes risque de faire appel à de la neige de culture. Aujourd'hui, c'est 35% dans les stations.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'épreuves, que ce soit dans les Jeux Olympiques ou dans d'autres compétitions de ski, qui de toute façon se basent sur de la production de neige. Donc, c'est pas forcément une question qui est très nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que tant que la température globale continue d'augmenter et que le manteau neigeux, du coup, continue de se retirer, pour la fiabilité des stations de sport d'hiver, on va nécessairement avoir de plus en plus recours à la neige de culture.
Et ça, ça a un impact, ça ?
Alors, la production de neige, elle a un impact parce qu'elle demande des ressources, d'une part en termes d'électricité et d'autre part en termes d'eau. Quel impact a l'utilisation de cette électricité ? Ça dépend un peu de la source qui est utilisée pour produire l'électricité. Et quel impact a l'utilisation de l'eau ? C'est une réponse qui est vraiment très locale et qui va dépendre fortement de la pression sur les ressources en eau de l'endroit qu'on étudie. Ce qu'il faut voir, c'est que la production de neige, c'est pas non plus une réponse à tout. Parce que pour produire de la neige, il faut quand même qu'on se situe dans des périodes où il fait froid. Et quand on regarde ce qui se passe à l'horizon de la fin du siècle, on a de moins en moins de fenêtres qui permettent la production de neige de culture. Donc ça ne pourra pas tout sauver.
Quel est l'impact finalement de ce désenneigement à long terme et sur la Terre et sur le climat ? Parce que ça a aussi un impact.
Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que la raréfaction de l'enneigement, elle n'a pas qu'un impact sur l'économie des régions de montagne et le tourisme hivernal. La neige, c'est un élément qui est clé pour plusieurs choses. D'abord, c'est un élément qui est clé pour notre climat à cause de sa couleur, parce que comme elle est blanche, elle va renvoyer l'énergie du soleil. Et du coup, c'est comme un stabilisateur de notre climat. Donc en gros, plus il y a de neige sur Terre, plus la Terre va renvoyer de l'énergie du soleil, moins elle va en absorber et moins elle va se réchauffer. Donc c'est comme un espèce d'emballement, une boucle de rétroaction. Plus il fait chaud avec le réchauffement climatique, moins il y a de neige, moins la Terre elle est blanche et plus elle va absorber l'énergie et plus elle va se réchauffer. Ensuite, la neige localement, elle a d'abord un rôle de stockage de l'eau sous forme solide. En gros, donc la neige, c'est de la glace et de l'air, donc c'est un stock d'eau qui va être relâché au moment de la fonte. Quand la neige se retire, du coup, on n'a plus ce tampon, on n'a plus ce stock d'eau, ce qui va mener à des modifications qui sont profondes du cycle de l'eau dans les régions de montagne et dans les plaines qui sont dessous. En gros, on va se retrouver avec plus d'eau en hiver et en automne qu'il y avait avant, parce qu'avant, ça tombait sous forme de neige. Un risque de crue qui va être légèrement plus élevé. Et puis, on va avoir au printemps moins d'eau parce qu'il y a moins de neige. Et ça va amener à potentiellement ce que nous, on appelle des étiages ou des sécheresses qui sont plus fortes en été. Peut-être la dernière propriété de la neige qu'on peut mentionner qui est très importante, c'est que on oublie souvent, mais la neige, c'est plein d'air et du coup, c'est un très bon isolant. Si la neige se retire, on va avoir des changements de la température du sol. Ça va avoir un impact pour les sols gelés comme le permafrost et les éboulements en zone de montagne. Et puis, ça va avoir un impact aussi pour tous les écosystèmes, les plantes et les animaux qui vivent dans ces régions de montagne. Après, enfin, peut-être quelque chose qu'on peut rappeler un peu sur le tourisme hivernal qui, je crois, est important, c'est le fait que, en soi, c'est pas la production de neige qui est souvent la source majoritaire de l'émission de gaz à effet de serre. Les premières sources d'émissions de gaz à effet de serre dans le tourisme hivernal, c'est le transport des personnes pour aller jusque dans les stations de ski et le logement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la montagne, les territoires de montagne, l'économie des régions de montagne et tout ce qu'on y pratique, c'est des choses qui sont fragilisées énormément par le réchauffement climatique, par l'augmentation des températures et le retrait de l'enneigement. Les JO, quelque part, c'est une question qui cristallise un peu ces enjeux d'adaptation et de changement liés à ce retrait de l'enneigement et de la cryosphère.
Et on terminera par ces mots. Merci Marie Dumont, directrice, je le rappelle, du laboratoire d'études de la neige pour Météo France et le CNRS. Et merci donc également à vous, Cécile de Carvaz-Doué. Enfin, il avait très largement contribué à mieux faire connaître les arbres et surtout les forêts primaires qu'il aura étudiées toute sa vie durant. Francis Allais, botaniste émérite, est décédé à l'âge de 87 ans sans avoir vu son rêve pourtant à la hauteur des enjeux climatiques se réaliser, celui de voir s'imposer un autre monde possible où l'humanité tout entière cohabiterait en harmonie avec le reste du vivant. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec le retour des éclaircies en Bretagne. Le sud reste encore très nuageux et puis un front neigeux devrait atteindre le nord de l'Auvergne ainsi que la Franche-Comté. Quant aux températures, elles seront comprises entre 1 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alix Forgeot. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.